les jardinières.
Les saints de glace sont désormais derrière nous. Le beau temps devrait faire son retour et les températures seront en hausse. De quoi réjouir nos jardiniers amateurs. Et si vous vous demandez par quoi commencer, ne bougez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à nos auditeurs et bonjour à notre expert du jour. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Durant la prochaine heure, c'est vous Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve, qui va répondre à toutes vos questions jardinage. Et vous connaissez, hein, vous avez trois possibilités pour nous atteindre. Déjà tout d'abord le téléphone, vous composez le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et si vous êtes timide, vous avez l'option SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez au 939. Ou vous pouvez également passer sur le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission, questions ou jardinières.
Quel plaisir de débuter le week-end en parlant jardinage. Bienvenue à tous et bon réveil.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes le 16 mai et les saints de glace sont passés. Dites-nous Jean-Pierre, c'est le meilleur moment de l'année pour les jardiniers? On peut, entre guillemets, tout faire maintenant?
Alors oui, à l'évidence, on peut quasi tout faire, si ce n'est que, évidemment, les plantations racines nues sont vraiment derrière. Mais là, en ce moment, tout ce qui est des semis, des plantations de barquettes, de caissettes, de massifs, alors on est sous l'avalanche de travail qui est à réaliser dans les massifs. On a eu ces saints de glace qui ont été un petit peu violents, froids et humides. C'était bonne heure d'humidité, le froid on l'a moins apprécié. Mais là maintenant, vraiment, alors on est dans les starting blocks pour ne pas perdre trop de temps et puis avoir un maximum de récolte de tout ce qui peut être récolté durant l'été.
Là Jean-Pierre, j'ai envie de me lancer dans le jardin. Je commence par quoi ?
Ouh là là, déjà trouvé un grand potager pour l'aménager. Mais après, on peut vraiment tout faire. Il y a les plantations de salades, de tomates, de courges, de concombres. On a les rhubarbes qui sont déjà à la récolte. On a les semis à réaliser. On a, oui, alors vraiment, on est. Mais il y a tout à faire. Alors prenez plutôt les directions qui vous tentent au niveau des légumes à devoir réaliser, à cultiver dans votre potager. Et puis, vous pouvez avoir que de la réussite.
Mais alors Jean-Pierre, moi si je vous écoute et si je comprends bien, il faut s'attendre à ce que aujourd'hui il y ait des files d'attente dans les jardineries et dans tous ces magasins où il va falloir être patient.
Alors ça je sais pas, celui qui a été prévisible, il s'est prémuni de cette situation déjà pendant les saints de glace parce qu'il faisait un très vilain temps et puis il a eu le temps de l'organiser et puis il n'y avait pas grand monde dans ces surfaces. À l'évidence maintenant les prochains jours qui feront très beau, eh bien il y aura passablement de clients qui se bousculeront, oui.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h. On va prendre vos questions. D'ailleurs, des questions, on en avait reçu pas mal en fin d'émission.
C'est le stock de la semaine passée.
Voilà. Pas toutes, mais les deux premières en tout cas. Alors Jean-Pierre, on va parler d'un yucca. Bonjour, nous avons acheté ce yucca, voilà une année. Il n'a jamais été dépoté. Aujourd'hui, il a des tout petits champignons dans la terre. Que faire? Merci et bonne journée. C'est une question de Catherine de Beuvais qui nous a envoyé une photo de son yucca. Je vous laisse décrire ce yucca.
C'est gentil. Bonjour Catherine. Oui, à l'évidence, ça peut arriver qu'on ait des champignons qui se développent sur les substrats des pots, des plantes d'intérieur, au même titre que dans les plates-bandes ou autres à l'extérieur des bâtis. En fait, ce qui se passe, c'est que les substrats qu'on a pour les plantes d'intérieur, c'est souvent un mélange avec un peu de tourbe et puis un peu de compost, de mulchi. Et puis, alors, bien sûr, il est stérilisé. Ça veut dire qu'il est passé à haute température pour détruire tout ce qui est des bactéries, des insectes dormants dans ce substrat. Et puis, également éliminer tout ce qui est des semences qui pourraient être latentes. Au niveau des champignons, eh bien, malheureusement, c'est un problème qui ne peut pas se supprimer à la stérilisation du terreau parce que le mycélium il se développe lors de la transformation des matières organiques. Et puis, ben, dans votre terreau qui est à l'intérieur, une fois arrosé, automatiquement, ce substrat va se mettre un petit peu à se transformer naturellement par l'oxygène et puis va développer du mycélium. Donc, ces champignons que vous avez sur le pot de votre yucca ne sont pas catastrophiques. C'est simplement un résultat de la transformation de ce matériel humifère que vous avez dans le terreau. Pour les supprimer, s'ils sont désagréables, simplement racler un peu la surface de votre pot et puis faire un rajout de terreau frais pour que ce soit plus esthétique. Et puis si vraiment il n'a pas été rempoté, puis que la plante se développe à merveille, et puis que vous vous rendez compte que le pot est un peu petit, eh bien c'est peut-être la bonne occasion, là en plus à ce moment, de changer de pot, de trouver un pot plus grand, et puis rajouter un nouveau terreau adapté à cette situation. Mais vous ne pourrez pas supprimer le phénomène du champignon qui se développe sur ce pot. Et puis ce n'est pas catastrophique pour la plante, ça n'a en tout cas pas de symbiose avec une dégradation du yucca que vous avez.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On rappelle en fait, comme Catherine, vous pouvez nous envoyer vos questions par formulaire en joignant une photo, ça se passe sur notre site, sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Vous pouvez aussi poser vos questions par téléphone, Raphaël.
Exactement, et c'est ce qu'a fait ce matin Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Votre question, allez-y, Jean-Pierre est tout à vous.
D'accord, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour madame.
J'ai une question à propos d'un saule pleureur. On a planté un saule pleureur il y a environ 5 ans déjà maintenant. Et puis une année et demie maintenant que les branches sont sèches. Et puis là, c'est vrai que cette année, on a dû un peu tout le raser, on va dire. Et puis je voulais juste savoir, parce qu'il y a deux repousses qui viennent dans le fond, mais est-ce qu'on peut le sauver? Est-ce qu'il est vraiment mort?
Oui. Alors, c'est vrai que de temps en temps, sur les saules pleureurs qu'on implante, on a des problèmes de reprise. C'est un champignon qui se développe sur le végétal et puis qui le bloque vraiment dans son développement. On n'a pas de traitement idéal pour ce champignon, ça reste un champignon, bien sûr. La meilleure des manières pour essayer de stimuler ce saule, c'est effectivement de le tailler, de vraiment y enlever toutes les petites branches, les brindilles, lui laisser la grosse structure supérieure. Et puis, alors comme vous l'avez dit, il y a des fois des rejets qui démarrent, même sur le tronc, qui ont beaucoup plus de vitalité que le reste du saule. Alors oui, vous pourriez aussi garder un de ces deux rejets, supprimer le deuxième, et puis le sujet que vous aurez conservé, il faudrait l'attacher au tronc pour avoir un axe dans le temps qui se dresse vraiment très droit. Et puis si celui-là se développe très bien, et bien d'ici une année, vous pourrez carrément sectionner la partie qui a servi de tuteur, de tuteur comme on peut dire, et puis il va se développer.
D'accord. Donc là, il faudrait vraiment couper un maximum ou bien ?
Alors oui, là, vous pourriez vraiment le plier, comme on dit, enlever vraiment tout ce qui est des branchettes, des branches pour enlever tout ce qui est de feuillage. Et puis à ce moment-là, votre saule, il sera obligé d'avoir une forte réaction. Et puis cette réaction, elle devrait se développer par se présenter par une forte pousse. Et puis du moment qu'il aura commencé de se défendre contre cette intervention d'enlever ses feuilles, eh bien automatiquement, il va pousser pour se prémunir. Et puis le fait d'avoir beaucoup d'énergie dans la pousse va simplement il va se défendre de lui-même de ce champignon.
D'accord, donc ça viendrait d'un champignon qui soit venu sec comme ça.
Oui, 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 oui. On a de temps en temps des problèmes sur les saules pleureurs. Il y a des fois, c'est malheureux, mais on aurait presque meilleur temps de simplement planter une grosse branche dans la terre et elle va démarrer 100 fois plus que d'un saule pleureur qu'on aurait acheté dans un pot. Parce qu'en plus, les pots, les saules pleureurs, il était dans un pot, vous savez, à la plantation.
Alors, je me souviens plus trop, mais c'était... Oui, je pense quand même un pot.
Oui, c'est jamais l'idéal, les pots pour les saules, parce que le saule, c'est un élément qui est plutôt colonisateur, donc qui se développe très vite, très fort. Je vous dis, une bonne branche plantée dans le sol, même d'un diamètre de 4-5 cm, de 2 mètres de long, il y a des fois, il démarre nettement mieux qu'un saule que vous aurez acheté dans un pot, parce que dans ce pot, eh bien, vous avez un terreau, le saule, il a déjà végété dans ce pot, dans la pépinière, et puis quand vous le mettez chez vous, vous avez l'impression qu'il va démarrer, puis il végète. Quand on achète des plantes de ce genre, comme le saule, le mieux, c'est comme des arbres, le mieux, c'est vraiment de les prendre en racines nues. Parce qu'en racines nues, ben, ils n'ont pas végété dans des substrats humides avec des développements de champignons latents. Et puis le fait de les arracher dans une terre, dans une pépinière, et puis de les replanter, le fait d'avoir coupé des racines, eh ben, c'est de nouveau un élément très stimulant pour la plante pour se développer. Donc il est obligé de compenser les racines qu'on aura coupées. Et puis par le fait qu'il se défend de cette section de racines, eh bien, il se prémunit contre ces champignons qui peuvent arriver ultérieurement.
D'accord.
En tout cas, Christelle, on espère que Jean-Pierre a répondu à toutes vos questions. On vous remercie en tout cas pour votre appel.
Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup.
Une toute belle journée, bon week-end à vous. Au revoir.
Au revoir. À vous aussi. Merci. Au revoir.
Les jardinières.
Les jardinières avec vous jusqu'à 8h et c'est Jean-Pierre Ribaud qui répond à vos questions ce matin. On va parler, Jean-Pierre, d'un citronnier avec cette question. De quoi souffre mon citronnier ? Chaque année, il perd ses feuilles au printemps. C'est une question de Joël de Glovelier. Elle nous a d'ailleurs envoyé une image d'une feuille de son citronnier.
Oui, bonjour Joël. En fait, votre citronnier, il ne souffre pas de grand-chose, si ce n'est pas l'élément de l'avoir mis dedans et puis de sortir trop vite et puis d'avoir des brûlures de soleil sur vos feuilles. Il faut savoir que toutes les agrumes, comme les oliviers, automatiquement doivent perdre une partie de leur feuillage. Le feuillage, il est persistant, mais il n'est pas éternel. Ça veut dire que les feuilles de cette année, ils vont tomber l'année prochaine en remplacement des nouvelles. Et puis celles que vous avez cette année qui tombent, eh bien automatiquement, c'était les feuilles de l'année passée. C'est un cycle naturel que vous ne pouvez pas évincer. Simplement, ce qu'il faut se prémunir dans des cas comme ça, c'est d'arroser, de lui mettre de l'engrais, un petit peu le tailler. Mais c'est tout à fait naturel que ces éléments perdent leurs feuilles, au même titre que le lierre, que les plantes qu'on a par chez nous. C'est pas éternel une feuille. C'est juste un cycle naturel, c'est normal.
Donc pas de panique pour le citronnier. Raphaël, je propose qu'on rappelle les numéros.
Comment nous joindre, exactement. Je suis prêt, je suis dans les starting blocks pour le standard. Que vous pouvez nous atteindre au 0 900 1 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et ça jusqu'à 8h moins 5, plus ou moins, pour poser vos questions en direct à notre spécialiste ce matin, Jean-Pierre Ribaud. Et si vous êtes un peu plus timide, vous avez l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Et vous nous l'envoyez au 939. Ou vous pouvez également passer par le formulaire disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières, vous pouvez y joindre une photo et on en a déjà quelques-unes qu'on a reçues tout au long de cette semaine et Mylène, je crois qu'on va y répondre dans quelques instants.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Avant de sortir au potager, posez vos questions à notre professionnel en direct ou par message. Ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud qui répond à vos questions. Il est paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves.
Et si vous ne savez pas encore comment faire pour nous joindre, eh ben, trois possibilités. Le 0 900 1 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous nous appelez, vous êtes en direct avec nous. Autrement, vous avez l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo qui est toujours pratique pour notre spécialiste.
La suite, c'est avec une question reçue par SMS. On nous parle d'un pommier. Bonjour, je dois déterrer maintenant en cause des travaux un pommier bâti d'au moins 20 ans et le replacer. A-t-il une chance ? Merci.
Eh bien, bonjour, cher auditeur. Non, vous n'avez pas beaucoup de chance de pouvoir déplacer votre pommier là en ce moment. En fait, le problème, c'est qu'il a démarré au niveau de la végétation. Il est en pleine multiplication, autant au niveau végétatif, aérien, que des racines au niveau souterrain. Et puis, le fait de l'arracher, vous voulez complètement détruire la structure de la terre qui se trouve autour de ces racines. Et puis, elles vont périr. Au pire, si vous le faites, ce qui va arriver, votre arbre, alors il pourra encore garder les feuilles une partie cette année, mais il va vivre sur les réserves qu'il aura emmagasinées dans l'écorce et puis il va jamais redémarrer au niveau des racines pour le printemps prochain. Je pense que c'est peine perdue. Ça vaut mieux le fait de le supprimer total et puis de remettre un nouveau sujet. En plus, vous voulez gagner du temps dans le temps, dans le sens où un jeune sujet que vous aurez planté cet automne, au printemps prochain, il va démarrer au quart de tour. Dans 3 ans, vous aurez déjà des premières récoltes sur ce pommier. Et puis votre vieux sujet que vous aurez transplanté, vous en avez pour 2 ans à le voir péricliter, vous allez perdre des années et puis vous n'aurez pas de fruits.
Merci Jean-Pierre. Bon ben, désolé.
Vous remarquerez qu'un arbre à 20 ans, il est à la retraite. Hein.
Voilà. Donc, il est carrément coupé pour passer au feu, quoi. Le pauvre pommier bon. Ben voilà, c'était une bonne idée de poser la question.
Il faut tenter. Et il faut tenter également pour nos autres auditeurs, puisqu'on a tout plein d'autres questions. Et on a reçu cette question cette semaine de Josiane Dareuse qui nous demande, elle, avec une photo jointe sur notre site internet, j'ai un mimosa qui a des petits cocons. Que faire pour les éliminer ? Merci et bonne journée.
Oui, eh bien, bonjour Josiane. En fait, votre mimosa, il a de la cochenille. C'est un parasite qui se prémunit sous une coque de cire. On l'a aussi des fois sous des cocons de coton. La cochenille, en fait, il y a un produit qui est plutôt biologique pour la lutte. C'est une huile minérale qu'on traite, qu'on épand par-dessus avec un pulvérisateur. Et puis cette huile, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle sèche avec l'oxygène et puis elle étouffe votre parasite qui se trouve dans le cocon. Vous n'avez que ce moyen de lutte-là. C'est écologique, bien sûr, ça reste un parasite, et puis ça vaut la peine de l'éradiquer, parce que sinon, il occasionne quand même pas seulement de dégâts, il peut aussi, après, avec le temps, avoir des coulures sur le végétal, des taches qui sont désagréables.
Merci Jean-Pierre. Bah voilà, la cochenille, elle aime bien être un peu partout. Hein. Quand on écoute les jardinières, elle est là un peu toutes les semaines.
On a l'impression que c'est le troisième animateur de l'émission.
Hein, la cochenille, voilà. Une question de Marianne de Couvet. Bonjour, dans un coin du verger et tout près du potager, il y a de belles orties que j'utilise beaucoup, mais des chenilles noires en grande quantité mangent tout. Faut-il les laisser pour qu'elles ne s'attaquent pas à mes légumes ou doit-on les déplacer? Je n'ai pas envie de les tuer car elles vont se transformer en papillons. Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, alors effectivement, c'est connu que l'ortie est souvent ravagée par une petite chenille. Enfin, il y en a plusieurs sortes. Il y a deux ou trois sortes de chenilles qui viennent s'accaparer des orties. En fait, non, si vous ne les traitez pas, ce n'est pas des chenilles qui vont venir attaquer votre potager parce que cette chenille, elle est propre à l'ortie. Les traiter, c'est comme vous avez dit, c'est presque dommage parce qu'elle va causer que du dégât sur vos orties. Et puis si c'est juste par le manque d'orties futures, vous les certainement trouvez ailleurs des aussi belles. Alors ouais, je suis aussi partant de l'idée de dire autant les laisser, ça ne va pas poser problème sur le potager. Et puis pour ce qui est de la table, eh bien, on trouvait ailleurs.
On espère que vous avez bien répondu à Marianne de Couvet. On rappelle peut-être les numéros 0901 70 20 20 pour être en direct avec nous pour 36 centimes la minute. Et autrement, vous faites comme de nombreux auditeurs, vous passez par la version SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Les jardinières.
Nous sommes avec vous encore un bon gros quart d'heure. On attend vos questions. D'ailleurs, nous avons reçu un téléphone pendant...
Exactement, et Jean-Pierre va poser une question à Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonheur, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Votre question à notre spécialiste.
Alors, j'ai des roses trémières et qui poussent bien. Ils ont déjà presque 1,50 m de haut. Mais j'ai des grandes feuilles. Est-ce que je peux couper les feuilles ?
Oui, alors c'est presque dommage de les couper parce qu'on sait que chaque feuille est une petite usine de transformation des matières pour la multiplication de la plante. Il est presque dommage de les enlever. S'il n'en est pas la raison, alors non. Si elles se jaunissent, si elles dessèchent, mais de préférence pas.
Non, elles dessèchent. Enfin, elles dessèchent au fond, mais le problème, c'est que j'ai des rosiers à côté puis ça me cache tous mes roses.
C'est un petit peu dense au niveau de la plantation, peut-être. Alors oui, vous pouvez un peu effeuiller vos roses trémières, mais ça reste toujours dommage parce que ça va altérer le développement de celles-là à l'avantage des rosiers de devant, quoi. Un peu, vous pouvez un peu. Elles vont pas périr, mais elles vont moins se développer. On dira ça comme ça.
Ouais, parce que l'année passée, j'ai eu des grandes machins, toutes 3 mètres de haut. Mais ben, il me semble qu'il n'y ait pas beaucoup de fleurs, mais beaucoup de feuillage.
Ok, alors peut-être qu'elle se trouve dans un substrat très très riche, et puis le fait d'avoir beaucoup d'azote, de matière organique, peut-être d'accord. Aussi par l'apport que vous faites à vos rosiers, et bien elle se met vraiment à feuilles, et puis pas forcément à fleurs, ça peut arriver. Ce qui serait peut-être bien, c'est de l'automne prochain, simplement soit déplacer les roses, soit déplacer les rosiers, c'est égal, l'un ou l'autre, vous arriveriez, pour laisser un peu plus d'espace, et puis les entretenir différemment.
J'ai compris.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre appel.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Une belle journée Jean-Pierre.
Alors Jean-Pierre, vous restez avec nous. On va enchaîner avec une question de Rita de Boudry qui aimerait savoir comment combattre les fourmis dans un jardin potager et sur les arbustes comme un petit olivier et un pommier.
Bonjour Rita. En fait, les fourmis que vous avez, c'est simplement que vous avez déjà des pucerons sur les végétaux où ces fourmis se déplacent. Et puis il faut savoir que l'excrément du puceron, eh bien, c'est sucré. C'est aussi pour ça que l'abeille, elle en raffole pour faire le miel de sapin. Alors la fourmi, elle monte sur les végétaux où il y a justement des pucerons pour se nourrir de ces excréments qui sont sucrés. Alors simplement un traitement qui peut être quand même pas trop violent, on trouve dans le commerce des traitements qui sont pas excessifs. Vous traitez vos arbustes avec ce produit pour supprimer le puceron et puis automatiquement les fourmis vont disparaître parce qu'il n'y aura plus de garde-manger. Après, au niveau potager, alors c'est un peu plus compliqué dans le sens où il y a quand même une carence de 3 semaines au niveau des légumes pour la consommation. Chercher des produits bio, allez-y avec du savon noir ou simplement peut-être supprimer les feuilles qui sont très atteintes au niveau des attaques des pucerons. Là, c'est un peu de cas en cas. Juste savoir que vraiment traiter le potager, c'est délicat parce qu'on a cette carence et puis trouver d'autres manières. Voilà.
Moi, je me demandais, ces petites fourmis, c'est pas bien ?
C'est pas gênant, la fourmi en elle-même, parce qu'elle vient simplement manger l'excrément du puceron. Le puceron en lui-même, est-ce qu'il est dangereux pour le végétal ? Alors non, s'il est en dose restreinte, si l'attaque elle est légère, il n'y a pas trop de soucis. Je dois dire que là, en ce moment, j'ai vu des mirabelliers, des damasciniers qui sont envahis de pucerons, qui n'arrivent plus à se développer, où les feuilles sont complètement nanifiées. Puis là, il faudrait vraiment intervenir, parce que sinon, on va perdre la moitié de la pousse de cette année. Il faut savoir qu'une forte attaque de puce, la puce, elle consomme tellement d'énergie sur les nouveaux éléments du fruitier que le fruitier peut plus se développer. Alors il se nanifie, il se bat contre l'élément, mais il n'arrive pas à se battre de lui-même parce que là, l'attaque, elle est trop violente. On a eu beaucoup de sec. Après de l'humidité, ils se sont multipliés en abondance. Et puis là, sur les fruitiers qui sont comme ça attaqués, ça vaut la peine d'intervenir avec un phyto.
Merci Jean-Pierre pour toutes ces lumières sur les pucerons. Nous sommes ensemble encore, 8 minutes, un peu moins. Donc si vous avez une question, c'est maintenant qu'il faut nous la poser. On vous laisse encore la possibilité de nous téléphoner au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou rapidement un message aussi par SMS, vous tapez jardin, espace, votre question. Vous nous l'envoyez au 939. On va parler gazon.
Exactement, c'est Nelly de Cueuve qui nous a envoyé ce message ce matin, justement par SMS, puisque ce matin, ça a bien gelé, et elle demande quand est-ce qu'elle peut mettre un engrais pour son gazon.
Oui, bonjour Nelly. Bien sûr qu'on peut mettre l'engrais sur pelouse maintenant. Il a fait un super temps, le terrain est devenu humide, donc l'épandage de l'engrais est favorable là. Simplement, quand vous le mettez en place, il faut le lancer très loin. Pas le lancer trop près, parce que si vous le lancez près, vous aurez des gros arcs de cercle très foncés et puis le reste jaune dans votre parcelle, donc il faut l'étendre uniformément. Le mieux, c'est de croiser l'épandage, mais c'est la super période pour mettre des engrais.
Attendez,
sur
vous êtes en train de nous perdre là. Excusez-moi. Croiser l'épandage.
Dans deux sens, mais oui, vous ne mettez pas la dose en un passage, mais plutôt en deux passages.
Ah, comme tissage un peu.
Oui, oui.
Voilà, d'accord, merci Jean-Pierre.
Ou alors vous trouvez un épandoir et puis la petite machine, elle va faire ça uniformément, mais comme tout amateur n'est pas équipé, eh bien on peut le faire à la main sans problème. Simplement, il faut faire en deux passages avec moitié de dose par passage.
D'accord, merci beaucoup Jean-Pierre, comme ça on a compris comment s'occuper de notre gazon. Je crois, Raphaël, que
oui.
Vous êtes avec une personne au téléphone.
Exactement, Béatrice qui nous appelle pour poser ses questions ou sa question à Jean-Pierre. Bonjour Béatrice.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre question à notre spécialiste.
Alors écoutez, j'ai des problèmes avec une pivoine.
Oui.
Ça fait 3 ans que je l'ai plantée. En automne, elle meurt. Elle revient au printemps, mais il n'y a jamais de fleurs.
Ok, c'est une pivoine arbuste ou c'est une pivoine vivace ?
Non, une vivace.
Ok, elle est très certainement plantée dans un substrat qui lui convient pas très bien. La pivoine, c'est une plante qui aime les sols frais et profonds, humifères, riches. Si elle n'a pas ces éléments, alors elle arrive à survivre, mais comme elle lui manque des éléments dans son développement, eh bien, elle n'arrive pas à vous développer des fleurs.
Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire ? Faut la changer de place, alors ?
Alors ça, ou bien vraiment lui faire un apport de terreau en surface pour améliorer cette structure tout autour. C'est un pied, 2 ans de plantation, vous avez dit ?
Oui. 3 ans.
3 ans, oui, elle devrait fleurir. C'est que l'emplacement ne lui convient pas. Ou la déplacer cet automne. En tout cas, pas maintenant, évidemment. Mais cet automne, vous
D'accord.
prenez avec une bêche assez large autour pour ne pas perdre trop de rhizomes. Et puis, vous la transplantez dans un endroit un peu plus frais, un peu plus ombragé. Et puis, ça devrait réussir.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Mais merci à vous, Béatrice, de votre appel.
Bonne journée, au revoir, bon week-end.
Merci, bonne journée. Bah merci. Oui, les pivoines sont en fleurs en ce moment. C'est magnifique. Grosses fleurs roses. Moi, j'ai des roses à la maison, pas des blanches.
Voilà.
Merci pour cette précision.
Mais de rien, j'avais envie de partager ma joie d'avoir des pivoines à la maison parce que c'est vraiment une belle fleur. Allez, là, vous devez dire oui, vous avez raison,
Mylène. Oui, tout à fait, Mylène.
Merci. Bon, sur
c'est
ces
spontané
bonnes...
et tout ça, hein. On le sent. Hein.
Sur ces bonnes paroles, il est déjà l'heure de passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. Ce matin, nous avons parlé de pivoines, par exemple, mais aussi de fourmis, de pucerons, de cochenilles. Jean-Pierre, nous sommes le 16 mai. Que faire au potager ce week-end ?
Eh bien, tout ce que le temps pourra vous donner comme possibilité d'intervenir, ça veut dire les semis, les plantations. Il faut savoir que les préparations des plates-bandes ont déjà été réalisées. Hein, et puis maintenant, on est vraiment dans la phase finale de l'implantation. Alors, si vous voulez planter des salades, par exemple, des petits trucs, mieux vaut les planter sur une petite butte que les planter dans un trou. Comme ça, quand vous récolterez votre salade, eh bien, elle ne sera pas grebue de terre, hein, elle va se laver automatiquement. Les courges, les concombres, ça vous pouvez y aller, les poros, les côtes de bête, ouais, tout est à faire. Alors, voilà, je peux pas, c'est à l'infini dans le potager.
Mais justement, Jean-Pierre, vous l'avez dit aussi en tout début d'émission, qu'est-ce qu'il faut absolument faire ce week-end, voire peut-être le week-end prochain, car après ce sera trop tard.
Mais dans le potager, on peut intervenir un peu quand on veut quand même. Vous avez toujours des nouveaux arrivages de plantons, d'éléments que vous arrivez à implanter. Même si vous avez fini votre carré de salade, eh bien vous pouvez le remplacer par un autre carré. Non, je dirais plutôt là, on arrive... où il y a des échéances, c'est plutôt dans les aménagements ou dans les semis, par exemple. Il nous reste 15 jours, 3 semaines pour réaliser des semis de pelouse parce qu'après, c'est beaucoup trop tard. Par contre, votre potager, vous pourrez toujours semer et planter parce que ça reste des surfaces qui sont plutôt restreintes et puis vous avez toujours l'arrosage possible. Donc non, il y a un cycle sur le potager qui est donné. Si vous vous prenez au jeu, c'est merveilleux, c'est une passion.
C'était beau, oui. Ça donne envie d'aller chercher des petites graines et de semer. Radis, des carottes.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Alors le radis, c'est peut-être là le dernier moment pour le mettre en place, parce qu'après, on sait aussi qu'à la chaleur, le radis, il ne va plus développer son rhizome, mais il va se mettre en graines, et puis vous n'aurez plus de radis à récolter. Alors le radis, c'est plutôt une plante printanière. Après, dans le temps, on supprime le petit radis parisien, là. On peut encore mettre les grands, mais là, maintenant, c'est carottes, c'est tout ce que vous voulez. Il y a vraiment un choix à l'infini.
Et puis en plus, comme la météo est de la partie pour ce week-end, autant en profiter. Merci beaucoup Jean-Pierre pour vos précieux conseils. On rappelle que vous êtes paysagiste à Queuve et propriétaire de votre entreprise Ribot Paysage. Merci de votre présence aujourd'hui dans les jardinières et on vous souhaite un très bon week-end.
Super week-end à tout le monde et puis bon jardinage.
Oui, la semaine prochaine, c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy qui sera là. Vous pouvez poser vos questions en tout temps, soit via le formulaire disponible sur notre site, soit par SMS. On se retrouve samedi prochain, dès 7h, passez un bon week-end et surtout, prenez soin de vous.
Bon week-end.
Les jardinières.